Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elle nous protège au quotidien, mais elle peut aussi nous gâcher la vie. Barrière cutanée, la peau est un organe qui régule la température et l'hydratation. Et sa surface, l'épiderme, isole des agressions extérieures, infections, rayons solaires nocifs, pollution. La peau, une alliée qui peut nous trahir lorsque l'agression est trop violente, lorsqu'un facteur extérieur l'abîme, la brume, la brûle, lorsque l'émotion la perturbe, une inflammation épaissit sa surface et que la peau, des squames, des manches, décolore, se couvre de croûtes, de pustules, des problèmes dermatologiques plus ou moins sévères et d'ailleurs, leur étendue n'est pas toujours proportionnelle à la portée du malaise, de la gêne qu'elle engendre, acné, psoriasis, verrues, eczéma, vergetures, poils incarnés, kéloïdes, comment diagnostiquer les différents problèmes de peau? Quels traitements peuvent soulager une affection cutanée? Est-ce qu'il existe des mesures d'hygiène à adopter, mais aussi des gestes à éviter? Ou encore, pourquoi la cicatrisation est-elle plus compliquée pour certains types de peau? Autant de questions que nous allons aborder au cours de cette émission. Et bien sûr, pour cela, on attend vos appels au 33 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. La peau dans tous ses états, on en parle avec vous, docteur Dominique Aigas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue, ancien président de la Société française de dermatologie chirurgicale et enseignant à l'Université Paris-Descartes. Tout à l'heure, nous allons retrouver en direct de Conakry le docteur Mohamed Massiré Souma, dermatologue vénérologue au service de dermatologie MST du CHU d'Onca de Conakry. Soutenir des initiatives de e-santé dans les pays du Sud pour la troisième année de suite. Les porteurs de projets peuvent déposer leur candidature auprès de l'Observatoire de la Fondation Pierre Fabre. Initiative pour améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité. On va en parler en fin d'émission de ces possibilités, un coffre, la plateforme et le concours avec Léa Mattel, chef de projet à la Fondation Pierre Fabre.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Aigas, lorsque l'on parle de la peau, on pense souvent à sa couche supérieure, à ce que l'on touche avec le bout du doigt, l'épiderme. Mais cet organe est composé de plusieurs couches, chacune a ses fonctions.
Absolument. La peau se compose donc de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Puis ensuite, il y a les feuillets aponevrotiques qui protègent les muscles. Donc c'est chaque partie de la peau a sa fonction. L'épiderme qui a une couche cornée un peu protecteur. Dans le derme, il y a toute la vascularisation, l'innervation. Et puis après, l'hypoderme, c'est plus un tissu graisseux qui donne une certaine souplesse et une laxité un petit peu à la peau. Donc chaque couche de la peau a son importance, quoi. Et l'ensemble forme, ces trois couches réunies, forme la peau en elle-même, quoi.
Alors, par exemple, quand on parle de brûlure premier, deuxième, troisième degré, c'est en fonction des atteintes en profondeur,
c'est voilà, ça? C'est en fonction des atteintes en profondeur. S'il y a que l'épiderme qui est atteint, donc ça donne une rougeur par vasodilatation au niveau du derme, mais ça se reconstitue très rapidement, parce que l'épiderme, par les follicules pilosébacées, va se réépidermiser, et ça, c'est assez rapidement guéri. Si ça va beaucoup plus profondément jusqu'à l'hypoderme, donc là, après, ça donne des cicatrices qui sont de mauvaise qualité, parfois rétractiles, pigmentées, et c'est beaucoup un problème beaucoup plus important.
Quand on parle de la plupart des maladies de peau, c'est la surface, la première surface qui est touchée, l'épiderme en général, ou pas forcément?
Non, c'est plus l'épiderme est aussi touché, mais c'est plus le derme, là où il y a toutes les structures nobles, vasculaires, nerveuses, le follicule pilosébacé, qui sont touchés. Quoi.
Question compliquée que je vais vous poser, mais quand même j'y vais. Qu'est-ce qui détermine la sévérité d'une maladie de peau, docteur Dominique Hégas? Pourquoi chez certaines personnes, on va voir par exemple des manifestations d'acné très limitées, et chez d'autres, très étendues? Même chose pour le psoriasis, même si ces maladies n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
Chaque maladie a un potentiel évolutif en lui-même, si vous voulez. Il y a des acnés qui sont très minimes, avec quelques petits follicules pilosébacées inflammatoires. De même, dans les psoriasis, il y a des gens qui vont avoir que quelques plaques, et d'autres qui vont avoir des psoriasis pustuleux très étendus. Donc ça, c'est l'évolutivité propre de la maladie. Chaque maladie, en fonction du patient qui en est atteint, a une évolutivité, une évolution différente, avec des degrés différents les uns des autres. Quoi.
Vous avez employé le terme de pilosébacée. On reconnaît deux mots dans ce terme, pilo comme poil, sébacée comme sébum. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Chaque poil, donc il y a le follicule pilaire qui produit le poil, et attenant à chaque poil, il y a une glande sébacée qui donne cet aspect un petit peu lubrifié. Ça sécrète le sébum qui permet à la peau d'être souple et d'être bien hydratée. Quoi.
Alors, même question sur les particularismes personnels. Pourquoi certaines peaux marquent-elles plus que d'autres?
Alors, c'est vrai qu'il y a des, en particulier sur les peaux pigmentées, il y a des gens qui font des cicatrices hypertrophiques. Donc ça, ce sont des cicatrices qui, à un moment de leur évolution, sont épaisses. Et puis après, redeviennent un petit peu plus normales. Et d'autres qui vont faire des cicatrices kéloïdiennes, en particulier sur les peaux noires. Et donc, qui peuvent se développer de façon autonome pendant très longtemps et aboutir à des cicatrices vraiment très importantes.
On a l'impression que sa cicatrice est en train de pousser, en quelque sorte.
Oui, parce que quand on se coupe ou quand on se traumatise, il y a un mécanisme autorégulateur dans la peau qui fait que lorsque la cicatrisation est arrivée à un certain niveau, il y a d'abord ça passe un petit peu au-dessus du plan cutané, et lorsque la cicatrisation passe un petit peu au-dessus de ce plan cutané, il y a un mécanisme qui arrête la cicatrisation et la cicatrice redevient sur le plan normal de la peau cutanée. Et chez certaines personnes, ce processus ne se met pas en marche. Donc la cicatrisation continue et peut continuer très longtemps. Moi, j'ai enlevé chez une jeune femme du Mali qui s'était fait un piercing d'oreille pour mettre ses boucles d'oreille, une cicatrice kéloïdienne de l'oreille qui pesait plus de 200 grammes.
C'est effrayant.
Impressionnant.
Et après, une fois que vous avez retiré par chirurgie...
Il faut surveiller, parce que comme
c'est un
phénomène propre à la peau de chacun, si on enlève une cicatrice kéloïdienne et qu'on ne surveille pas suffisamment longtemps, le processus kéloïdien redémarre et ça va refaire une autre cicatrice kéloïdienne. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes à qui on enlève une kéloïde, à peu près 30% des cas, et puis elle ne va pas en refaire une autre après. On commence à expliquer un petit peu ce phénomène, mais toute cicatrice hypertrophique et kéloïdienne surtout enlevée doit être surveillée pendant 1 ou 2 ans après l'ablation de cette cicatrice.
Alors, une autre question juste avant de passer la parole aux auditeurs et auditrices de Priorité Santé. Pourquoi beaucoup de problèmes de peau provoquent des démangeaisons? Pourquoi ça gratte, docteur Dominique Hégas?
Alors, le ressenti d'une dermatose par les gens, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Je pense que la peau, c'est aussi un organe nerveux. Et donc, c'est vrai que si la peau est trop sèche, si la peau est un petit peu inflammatoire, ça va engendrer des démangeaisons. Et le vécu de ces démangeaisons varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et donc, il y a des gens qui ont des tout petites surfaces, on appelle ça lichénifiées, sur 2 cm carrés, ils passent leur temps à se gratter et ça leur gaspille l'existence. Quoi.
Oui, mais quand même, certains problèmes, certaines maladies provoquent davantage de démangeaisons que d'autres. Elles ont la réputation vraiment d'être assez insupportables.
Par exemple, l'eczéma et l'urticaire sont des dermatoses prurigineuses. Les gens qui ont des eczémas constitutionnels, on appelle ça atopique ou constitutionnel, avec des lésions au pli des coudes, derrière les genoux, sous les oreilles, etc. Ça, c'est la maladie elle-même qui est prurigineuse. Donc quand ces lésions microvésiculaires apparaissent, ils se démangent énormément, mais c'est un des symptômes de la maladie. De même l'urticaire, d'origine allergique, quand les lésions papuleuses apparaissent sur la peau, ça démange. Et
donc... Par contre, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a d'autres troubles. Par exemple, si on se gratte, c'est simplement parce qu'on réagit mal, mais c'est pas intrinsèque au problème.
Ouais. Alors le fait de se gratter, tout le monde se gratte. Si vous voulez, on a de temps en temps la peau qui nous gratte parce que c'est un peu trop sec ou un petit peu irrité. On se gratte un petit peu, la démangeaison s'arrête et puis le problème est résolu. Mais dans les dermatoses prurigineuses, en particulier l'eczéma, c'est vrai que l'eczéma constitutionnel, ça gaspille la vie des patients. Hein. Donc on a des crèmes corticoïdes maintenant ou des immunomodulateurs qui permettent de moins se démanger. Mais vraiment, là, il faut les soulager parce que la dermatose en elle-même est prurigineuse. Par exemple, le psoriasis, c'est une dermatose inflammatoire. Très gênante aussi, mais pas prurigineuse, ou très très peu. Quoi.
Ça veut dire qu'il ne déclenche pas automatiquement des démangeaisons. Docteur Aigas, on va tout de suite passer à des cas très concrets, hein, car les auditeurs de Priorité Santé sont nombreux à vouloir vous poser leurs questions.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord à Aminata que l'on va donner la parole. Aminata qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Aminata.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors moi j'appelle pour un excès de sébum au niveau du visage. J'aimerais savoir quelles alternatives je pourrais avoir. Donc j'ai fait des masques. Mais la matinée ça va. Début de matinée ça va. Matinée, toute l'après-midi, j'ai la peau qui commence à briller, vraiment autour du nez, le haut du visage et au niveau du menton. J'ai beau essuyer avec un mouchoir, en fait, je crois que c'est vraiment la chose qui me supporte le plus.
Aminata, la peau qui brille, on dit on va se repoudrer le nez communément. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? D'abord, c'est pas une maladie.
Le fait qu'il y ait une sécrétion de sébum, c'est normal. Parce que s'il n'y avait pas de sécrétion de sébum, la peau serait très sèche et là, elle serait écailleuse un petit peu. Donc le fait qu'il y ait une sécrétion de sébum, c'est normal. C'est sous dépendance hormonale, un petit peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Là, je vois qu'Aminata a 35 ans et donc elle est dans une activité hormonologique normale. Et donc, au niveau du front, du nez, du menton, il y a une sécrétion sébacée. Alors après, peut-être qu'elle a une sécrétion excessive de sébum. Au moins, le considère-t-elle pour elle. Donc malheureusement, il n'y a pas de traitement.
C'est peut-être se tourner vers la cosmétique, tout simplement.
Voilà, alors pendant un moment, on disait qu'il faut mettre un inhibiteur de la 5-alpha-réductase qui diminue un peu la sécrétion sébacée. Ça a été essayé, ça n'a pas donné des résultats vraiment formidables. Non, je pense que le meilleur traitement pour l'excès de sébum, c'est de se prendre un petit Kleenex, de tamponner sans trop frotter, parce que si on frotte trop... on va reprovoquer une petite inflammation, une relargation de sébum, et donc ça va être un peu excessif. Donc je pense qu'il faut vraiment bien se nettoyer la peau avec des savons doux ou des lotions nettoyantes douces matin et soir. Ça, il faut le faire régulièrement, chaque jour, matin et soir. Et dans la journée, si on trouve qu'on a la peau un petit peu grasse, faut prendre un Kleenex, essuyer doucement et puis remettre un petit...
Donc c'est déjà ce que vous faites, hein, Aminata. Donc on peut juste vous dire de persévérer sur cette voie. Il n'y a pas en tout cas de traitement pour arrêter ce phénomène de peau qui brille. On vous souhaite une très bonne journée en région parisienne. On va partir tout de suite pour le Sénégal, pour Dakar, où l'on retrouve Cora. Cora qui est en ligne avec nous. Cora, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Aigas vous écoute.
Voilà. Alors, j'appelle parce que je souffre de... Bonjour docteur. Je souffre de vitiligo. J'ai un vitiligo depuis, ça fait peut-être maintenant 20 ans. Mais au départ, c'était vraiment de toutes petites taches de décoloration. Et depuis quelques temps, enfin quand même depuis presque 10 ans maintenant, ça s'étend. Et j'ai vu mon arrière-grand-mère la voir, je l'ai connue avec son vitiligo, elle était presque toute blanche, hein. Elle avait des traces de vitiligo mais partout sur le corps. Ma mère l'a eu et moi maintenant je commence à la voir. Alors, je voulais savoir s'il y a eu des recherches contre ce phénomène cutané dépigmentant qui est extrêmement disgracieux.
Et oui, alors le vitiligo, hein, c'est une, ça rentre dans le cadre des maladies auto-immunes. Donc c'est un peu la peau, on bloque la fonction pigmentaire de la peau. Donc il y a une apparition de taches blanches, quoi, dépigmentées, qui est un préjudice esthétique assez important. Les chercheurs s'occupent beaucoup de ce problème, et parce que c'est vrai que sur le plan esthétique, c'est mal vécu.
Docteur Egas, est-ce qu'il y a des risques particuliers justement quand la peau est dépigmentée, quand on l'expose au soleil?
Comme la peau est dépigmentée, si on se met au soleil, il n'y a plus de protection vis-à-vis du soleil, donc il peut y avoir des cancers cutanés qui apparaissent plus sur ces zones-là.
Donc il faut se protéger. Éventuellement, Cora, est-ce que c'est justement, est-ce que la dépigmentation concerne des parties exposées de votre anatomie, les bras, le visage, le cou?
Là, justement, j'en ai sur le côté gauche du cou qui apparaissent. Les bras, pas encore, mais j'ai des petites taches. Un tout petit peu sur le dessus de la cheville gauche.
Donc, est-ce que vous vous protégez du soleil, des rayons, quand vous êtes au soleil, hein? Vous êtes à Dakar, donc forcément, ouais, c'est tout le temps. Est-ce que vous faites attention particulièrement avec des filtres solaires?
Pour le visage, j'ai toujours une crème protection solaire maximum. Sinon, sur le reste du corps, je m'hydrate normalement, sans protection particulière. Également, je voulais vous signaler que quand j'ai vu mon dermatologue, il m'avait conseillé de ne pas porter de vêtements synthétiques. Et effectivement, dès que je porte du synthétique, il y a des phénomènes de démangeaison qui se portent. Donc je ne porte que du coton, des fibres naturelles. Je ne peux pas porter de synthétique.
Docteur Egas, est-ce qu'il y a forcément un lien entre le vitiligo et une sorte de réaction, on dirait, allergique?
Non, parce que là, le vitiligo, c'est pas du tout une réaction allergique. Hein. C'est une dermatose, on en parlait tout à l'heure, c'est une dermatose qui ne gratte pas. Mais c'est une dermatose qui dépigmente. Alors, il y a eu des recherches de fait. Hein. Il y a les traitements, on en a proposé il y a quelques temps, un traitement par le laser excimer, mais qui est très prenant, qui ne se fait pas en Afrique, d'ailleurs, je pense, et en France, qui se fait à Nice, essentiellement. Et il y a une crème, un immunomodulateur qui s'appelle le Protopic, qu'on a utilisé dans le vitiligo, donc il faut mettre un peu de Protopic, et puis après, s'exposer un petit peu aux rayons ultraviolets, au soleil, mais quand le soleil n'est pas fort, c'est-à-dire en début de matinée, et ça peut repigmenter un petit peu. Je pense que dans les années à venir, il va y avoir un traitement ciblé pour le vitiligo qui va apporter des gros progrès quand même. Il faut les gens qui ont des vitiligo, sur les zones qui sont claires, en tout cas, il faut bien protéger du soleil. Et puis, ce qu'on peut conseiller, c'est de pas trop se mettre au soleil au moment où le soleil est important. Donc, les traitements qu'on avait donnés au début, c'était des crèmes cortisonnées, mais ça, on peut pas mettre ça trop longtemps. Le protopic, c'est un progrès, mais il faut bien cibler les moments où on va s'exposer au soleil pour avoir une chance de repigmenter. Et je pense que dans quelques années, il va y avoir des traitements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus efficaces.
La recherche y travaille. Très bonne journée à vous, Cora, à Dakar. On va partir pour Kigali, pour le Rwanda, où l'on retrouve Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
On vous écoute, Marie.
Ok, je vous appelle. J'avais une question aussi. J'ai une peau qu'on m'a dit, j'ai consulté un dermatologue, mais on m'a dit qu'elle est vraiment très grasse. J'ai des boutons, pas des très gros boutons, mais il y en a quand même et ça laisse des taches. Alors moi, je demandais une solution pour ça. Quelle solution pour moi? Parce que tout ce qu'on m'a donné comme conseil, tout ce qu'on m'a prescrit jusque-là, c'est des savons ou bien de lotions. C'est vrai que pour un certain temps, ces boutons partent, mais après 3-4 mois, ils reviennent encore plus. Et là, l'autre problème, c'est que tout ce qu'on propose comme solution ici, ça éclaircit la peau. Moi, mon problème, c'est comment régler ce problème de boutons sans avoir à éclaircir ma peau. Parce qu'après, les boutons partent, c'est vrai, la peau, elle est très belle. Elle devient un peu plus claire, mais après, les boutons reviennent et la peau, on perd son teint d'origine, et là, c'est un autre problème. Donc mon problème, c'était comment régler ces problèmes de boutons sans pour autant avoir à éclaircir la peau.
En restant vous-même, docteur Dominique Aigas, pourquoi des produits qui éclairciraient contre l'acné?
Ouais. Et est-ce que je peux me permettre de demander quel âge vous avez?
Marie, quel est votre âge, si c'est pas trop indiscret?
J'ai 31 ans maintenant.
31 ans.
Ouais. Non, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la peau grasse est sous dépendance hormonale. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que si on a une fonction sébacée qui est un petit peu activée, la peau est grasse. Alors ce qu'il faut, c'est pas, il faut pas faire des traitements agressifs, parce que si on fait des traitements agressifs, là si vous faites un traitement qui éclaircit la peau, c'est peut-être que le traitement est un petit peu trop agressif et il va y avoir une séborrhée, une hyperfonction sébacée secondaire et la peau va régresser encore un peu plus après.
Alors sur le long terme, qu'est-ce que peut faire Marie pour améliorer les choses?
Ce que je disais pour la patiente précédente, hein, il faut bien se laver la peau matin et soir avec des savons doux. Il faut mettre des crèmes hydratantes pas trop grasses surtout, hein, il faut des crèmes hydratantes des fluides. Il faut, dès qu'on sent que la peau est un peu grasse, faut prendre un Kleenex, essuyer tranquillement et remettre un petit peu de crème hydratante. Il y a pas de traitement, parce que les traitements qui contrarieraient la fonction hormonale de la patiente, ça serait pire que la peau grasse. Donc on faut pas faire de traitement qui soit pire que le problème qu'on doit traiter.
Voilà Marie, bonne journée à vous à Kigali au Rwanda. On va rejoindre le Gabon, Libreville, on a beaucoup d'appels, donc on va peut-être répondre un petit peu plus de façon courte. Daniel, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute,
bonjour.
Daniel.
Moi je te nomme, c'est Daniel, j'ai 33 ans, et je pense que depuis mon adolescence j'ai un souci de peau, elle est à la fois très sèche et très grasse. Mmh. C'est-à-dire qu'autour du cuir chevelu, donc sur le haut de la tête, quand c'est ado la moustache et aujourd'hui la barbe, j'ai la peau très sèche et elle blanchit après la douche. Pour peu que je souris, j'ai l'impression d'avoir des blancheurs partout et il y a de la peau qui pèle. J'ai plein de flocons de peau, je dirais, sur le t-shirt qui me retourne. Et pendant longtemps, on m'a dit que c'était des pellicules. J'ai essayé tous les shampoings qu'il y a sur le marché. Il y en a un en particulier, je ne citerai pas la marque, mais il y en a un seul qui a un peu aidé. Mais c'était juste pour le haut de la tête. Par contre, pour la barbe et la moustache, ça n'a jamais fait. Et donc, j'ai à la fois ce problème de peau grasse sur le front, par exemple. Et autour de la bouche, la moustache et la barbe, c'est super sec. J'ai la peau qui pèle. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai perdu une bonne partie de mes cheveux sur l'avant du haut de la tête. Et mes frères me disent que c'est certainement dû à ça. Parce que je suis le premier à perdre mes cheveux, et je suis le plus jeune, donc c'est assez dérangeant, je dirais. Et je voulais demander au docteur s'il y avait une solution, c'est-à-dire si déjà ce problème de peau qui pèle est sèche, alors que j'ai une peau grasse naturellement, comment je peux faire pour le régler, et surtout pour le haut de la tête, est-ce qu'il y a des chances pour que je récupère un peu de mes cheveux?
Docteur Aigas, c'est quoi ce processus? Une désquamation?
Non, alors là, ce que je me pose pour Daniel, là, le problème que je me pose, c'est de savoir, parce que je vois que ses frères ont le même problème, si on n'est pas dans le cadre d'une ichtyose vulgaire, qui est une maladie génétique, familiale, qui donne des aspects desquamatifs avec un peu de peau de serpent, comme il dirait. Donc là, c'est un problème plus compliqué, parce que c'est une maladie génétique familiale, avec des zones de peau sèches et desquamatives.
C'est pris en charge par la dermatologie, ce genre de choses?
Alors, ça, c'est pour l'instant, on n'a pas encore de traitement. C'est pris en charge par la cosmétologie, c'est-à-dire que sur les zones sèches, il faut bien crémer, bien hydrater.
Prendre des produits très adaptés.
Et alors sur le front, qui est toujours une jaune hyper séboréique, c'est sûr qu'il peut avoir la peau sèche sur le corps et la peau un peu trop grasse sur le front. Mais là, il faut qu'il aille voir un dermato pour faire une biopsie éventuellement, pour bien identifier, parce qu'il y a différents types d'ichtyose. La plus fréquente, la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'ichtyose vulgaire. Ça n'a rien de vulgaire, mais c'est le nom qui est...
Ça veut dire commun, en fait.
Et donc ça, c'est une maladie génétique familiale. Ça serait bien que, Daniel, là, vous sachiez si vous avez cette maladie ou pas. Et après, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la peau sèche de façon plus étendue, sans que ce soit une ichtyose, mais un petit peu naturellement.
Donc, Daniel, vous avez les moyens, la possibilité d'aller consulter un dermatologue à Libreville?
Absolument, oui.
Eh ben, donc voilà, le conseil du docteur Aigas pour exactement déterminer la nature de ce problème cutané. Voilà. D'accord. Merci. Très bonne journée à vous à Libreville. On part pour le Tchad rejoindre Jude. Bonjour, Jude.
Bonjour Caroline.
Bonjour. Adjamena, on vous écoute, Jude.
Oui, pour moi, j'ai un problème sur les cheveux, le cuir chevelu, sur la tête, le menton et voire même le pubis. À chaque fois que je me coiffe, à partir du deuxième, troisième jour, quand les cheveux commencent à pousser un peu, ça commence à me démanger. Et ça me démange de telle façon que la nuit, je n'arrive même pas à dormir.
Alors, docteur,
généralement, sur le menton, quand ça commence avec moi comme ça, j'ai l'habitude de mettre des petits baumes locaux appelés communément le Vitago. Je mets là, c'est pour quelques temps seulement, ça me laisse dormir et demain, ça recommence jusqu'à ce que les cheveux poussent et ça grandit. D'abord, ça me laisse.
Ce baume local, il est vendu en pharmacie, vous le procurez où? C'est quoi exactement?
Bon, c'est sur le marché, c'est pas en pharmacie.
Sur le marché, d'accord.
Et, ouais.
Alors, certains baumes sont des produits qui sont pas formidables et qui peuvent justement induire des folliculites parce que c'est trop gras, il y a dedans des produits un petit peu agressifs et qui, au moment où on les met, on a l'impression que ça calme un petit peu et dans un deuxième temps, ça aggrave plus que ça ne calme. Donc, alors je vois que...
Prudence sur l'utilisation.
Ouais. Donc peut-être que ça serait mieux que vous alliez dans une pharmacie pour avoir des crèmes hydratantes et pas des baumes, parce que les baumes c'est plus gras, des crèmes hydratantes ou des émulsions même, qui sont encore des produits encore un petit peu plus légers et qui empêchent de se gratter, parce que je crains que le baume que vous utilisiez soit plutôt un souci qu'un soulagement.
Voilà, Jude, faites attention avec ce que vous allez acheter au marché et bon courage. Vous, à Djamena, au Tchad. On va partir pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire. Je disais donc qu'on a beaucoup d'appels et on va essayer de répondre à un maximum de ces appels. C'est Aimé qui est avec nous. Aimé, en ligne d'Abidjan. Bonjour Aimé.
Bonjour docteur.
Bonjour Aimé.
On vous écoute Aimé.
Oui, moi ça fait 3 ans que j'ai l'acné. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et vraiment, l'acné a laissé des cicatrices sur mon visage et des boutons et des taches noires. Et j'aimerais que vous m'aidiez à trouver une solution.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Aimé, pour traiter votre peau?
J'utilise des produits naturels comme la tomate. Très souvent, je prends ça pour juste calmer les lésions.
Vous mettez de la tomate sur le visage et vous massez le visage avec la tomate, c'est ça?
Oui, je le fais très souvent, pas régulièrement.
Docteur Dominique Egas, utiliser un produit comme la tomate, ça ne risque pas d'aggraver la situation?
Alors, je vois qu'Aimé a 17 ans, donc oui. C'est l'âge où on peut avoir une acné. Hein. C'est vraiment les âges où l'acné peut être même un petit peu importante. Donc en fait, il faut avoir des traitements anti-inflammatoires, mais adaptés. Je suis pas certain que la tomate soit un bon traitement pour les... Surtout que je vois que vous faites des gommages plusieurs fois par semaine, je suppose. Je pense que ça aggrave un peu votre séborrhée et ça aggrave un peu votre folliculite acnéiforme, enfin votre acné. Et donc, si vous avez une peau pigmentée, vous savez que les dermatoses inflammatoires comme l'acné sur les peaux pigmentées, ça peut laisser des taches pigmentées, un petit peu plus pigmentées, et ça donne un aspect inesthétique pas très satisfaisant. Là, peut-être que si vous avez une acné assez importante, il faudrait que vous alliez voir un médecin ou un dermato pour qu'il vous prescrive par voie interne des traitements anti-acnéiques.
Mais on sait que c'est pas toujours facile de trouver un dermatologue dans certaines régions et d'en avoir en tout cas les moyens. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller voir un dermato ou c'est un petit peu compliqué pour vous?
Bon, c'est un peu compliqué pour moi.
Moi, je pense que ce serait bien que vous nettoyiez votre peau, comme on disait tout à l'heure, avec des savons doux, que vous arrêtiez les gommages à la tomate, parce que je pense que les gommages à la tomate, ça aggrave plus que ça n'améliore, que vous laviez le visage matin et soir avec des savons doux, et éventuellement que vous mettiez une émulsion ou une crème hydratante douce qui vont vous calmer un petit peu vos poussées d'acné.
Docteur Egas, quand on a des boutons d'acné, tout simplement, est-ce qu'il faut les désinfecter au coup par coup ou on les laisse tranquilles?
Non, on peut ponctuellement, il y a un produit qui s'appelle l'érythromycine, qui est un antibiotique local qu'on peut tamponner matin et soir avec un petit coton-tige ponctuellement sur le microkyste d'acné et ça donne des bonnes améliorations.
Voilà.
Parce que c'est bien ciblé et puis c'est quand même très efficace, quoi.
Et tout à l'heure, vous disiez aussi, peut-être limiter dans certains cas trop d'exposition au soleil qui peuvent aggraver, ça peut aggraver
le soleil, quand on y va pas trop, de façon raisonnable, ça diminue l'acné, mais si on y va trop, la peau s'épaissit et dans un deuxième temps, ça aggrave l'acné.
Alors, voilà pour ces conseils, et on vous souhaite une bonne journée à Abidjan. On prend un dernier auditeur, c'est Alex qui est en région parisienne. Bonjour Alex.
Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
Je vous remercie de prendre mon appel parce que mon épouse est au Mali, dans la première région du Mali. Donc, ça fait 3 ans qu'elle souffre, n'est-ce pas, de d'urticaire. Et j'ai fait tout. Elle est allée à Kaye, elle est restée 6 mois à Kaye pour un traitement qui n'a rien donné. L'année dernière, je l'ai amenée à Bamako, à Dikoni Para, là aussi. 8 mois, elle est restée à Bamako. Ça n'a rien donné. Donc, on lui a prescrit des interdictions, comme la non-consommation du lait, le poisson d'eau de mer, de ne pas toucher à l'arachide, sous quelque forme que ce soit, que ce soit l'huile d'arachide ou les cacahuètes, des trucs comme ça.
Donc Alex, on lui a fait des tests d'allergie, c'est ça ?
On lui a fait des tests partout, mais ça continue. Moi-même, j'achète ces pommades ici comme Dextril. Il paraît que c'est beaucoup plus efficace que les autres. Et je n'en finis pas. Moi, je ne sais pas. Je pars lundi. Donc, votre émission tombe à pic parce que je vous ai en ligne. Si vous pouvez me donner des explications, parce que
même si vous savez Alex, c'est pas une consultation par téléphone. Hein. En aucun cas, on peut dire allez acheter ça ou ça. De toute façon, l'essentiel des produits traitants, c'est sur ordonnance. Donc au moins, ouais. Ça limite.
Le problème de ces urticaires chroniques, là, parce que je vois que l'épouse d'Alex souffre d'une urticaire chronique, ça, ce sont des maladies vraiment très inconfortables, puisque ça démange beaucoup. Il y a des récidives plus ou moins importantes assez régulièrement. Et nous, on disait. Que lorsqu'on était en face d'une urticaire chronique comme ça, il faut faire un interrogatoire policier. C'est-à-dire qu'il faut essayer de cibler tout ce qui peut provoquer dans l'alimentation, dans l'environnement, dans l'habillage, dans les savons, dans les produits cosmétologiques.
Ça peut même aller jusqu'à la lessive. Hein. Qu'est-ce que vous utilisez comme lessive ?
Voilà, absolument. Parce que et donc il faut vraiment un interrogatoire extrêmement précis, très minutieux, pour essayer de savoir ce qui provoque ces urticaires chroniques. Ça peut être par voie interne, ça peut être d'origine alimentaire. Et donc, pour éliminer, je vois que l'arachide, c'est assez urticant. Le lait, chez certaines personnes, ça peut l'être aussi. Et donc, il faut faire un bilan extrêmement précis, très soigneux, des tests allergologiques, pour savoir à quoi elle est allergique et ce qui provoque ces crises d'urticaire. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut aller voir des médecins allergologues et dermatologues pour qu'ils se concertent ensemble et pour arriver à trouver la solution.
Voilà Alex, mais surtout en tout cas n'apportez pas n'importe quel traitement à votre épouse.
Voilà, il faut pas qu'elle mette des crèmes qu'elle va avoir, que une copine va lui conseiller, etc. Parce que il peut y avoir dans ces crèmes des produits qui provoquent l'urticaire. Donc il faut
y
vraiment
avec grande prudence.
Ouais, il faut être extrêmement prudent.
Voilà Alex pour cette réponse. Hélas, pas de solution miracle, mais en tout cas cette esquisse de réponse, on vous souhaite une.
Alors je vois que elle a des faits de certains vêtements. Il faut pas qu'elle mette des vêtements trop serrés. Ça c'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle une urticaire retardée à la pression. Si on serre un peu trop au niveau du soutien-gorge ou de la ceinture, tant qu'on l'a, ça va, mais on l'enlève. Une demi-heure après, l'urticaire retardée à la pression apparaît et là, ça gratte beaucoup.
On a aussi des allergies comme de contact quand on touche certains textiles.
Absolument.
Donc ça aussi, ça peut poser des problèmes et démanger. Bonne journée à vous, Alex. Comment se fait-il, docteur Dominique Hégas, tout à l'heure, bien sûr, vous avez parlé des hormones, comment se fait-il que certains problèmes de peau soient particulièrement liés à certaines périodes de la vie ?
Ben, vous savez, la peau évolue, enfin, comme tout l'organisme, d'ailleurs, ça évolue au cours de la vie. Il y a des bébés qui vont avoir des acnés miliaires du nourrisson parce qu'ils passent du contrôle hormonal de la maman quand elle est enceinte à leur propre contact. Ils font une petite acné miliaire. Au moment de la puberté, il y a une augmentation des hormones masculines chez les hommes et féminines chez les femmes, qui vont aussi chez certains provoquer des acnés ou des poussées de séborrhée. Après, lorsque les femmes arrivent à la ménopause et les hommes vieillissent, la sécrétion hormonale diminue et la qualité de la peau change. La sécrétion sébacée diminue aussi. La peau devient plus sèche, plus fine, plus irritable. Donc, tout au long de la vie, la peau change. Et même en vieillissant, la peau diminue en épaisseur, elle est plus fragile. Tout le monde a vu chez certaines...
Les peaux parcheminées.
Voilà, et chez certaines femmes très âgées, elles ont les peaux tellement fines qu'on arrive à voir le réseau vasculaire à travers la peau. Quoi.
Docteur Dominique Yegas, on va tout de suite prendre la direction de Conakry.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on retrouve le docteur Mohamed Massiré Souma, bonjour.
Bonjour,
Caroline. Oui, bonjour.
Vous êtes dermatologue vénérologue au service dermatologie MST du CHU, donc 4 Conakry. Docteur Massiré Souma, quelles sont les premières causes de consultation chez vous à Conakry?
Alors, merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors, à Conakry, notre service qui est l'unique du pays, et les premiers motifs d'hospitalisation et de consultation, surtout, c'est les dermatoses infectieuses. Et donc, quand on prend ces dermatoses infectieuses aussi, c'est surtout les dermatoses bactériennes, en l'occurrence les dermohypodermites bactériennes. Nous avons également les dermatoses parasitaires. Aussi, à tête de liste, nous avons la gale qui reste hyper endémique chez nous, où les patients viennent en consultation, parfois à des stades de complications même. Parce que comme vous le savez, chez nous, souvent, les patients font souvent recours à la tradithérapie qui complique parfois les dermatoses. Et donc, quand ils viennent, souvent, c'est au stade de complications. Alors, nous avons aussi des complications de la dépigmentation artificielle, que nous recevons dans notre service. Et d'ailleurs, quand vous prenez les dermohypodermiques bactériennes, cette dépigmentation cosmétique volontaire est l'un des facteurs de risque de survenue de ces dermohypodermiques bactériennes.
Est-ce que vous diriez justement, excusez-moi, docteur Mohamed Massiré Souma, est-ce que vous diriez que cette dépigmentation est aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, un vrai problème de santé publique?
Et exactement, c'est un véritable problème de santé publique, un véritable fléau dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara. Et quand vous prenez tous les pays, cette dépigmentation artificielle, la prévalence varie de 25 à 60% des femmes qui font recours à cette pratique. Et autre phénomène, de plus en plus, il y a certains hommes qui s'adonnent à cette pratique. Alors, cette dépigmentation cosmétique volontaire, non seulement a des conséquences sur la santé, mais aussi des conséquences sur le plan social. Et parce que les fonds que les femmes engloutissent dans cette pratique est énorme. Ça fait vraiment de l'évasion fiscale. Et parfois, vous allez voir certaines femmes qui s'adonnent à cette pratique, qui n'ont pas suffisamment de moyens. Alors, le peu de ressources qu'elles disposent pour mettre au profit de la famille, elles préfèrent détourner cela pour mettre à la place de cette dépigmentation volontaire.
D'où l'utilité d'informer sur les risques de santé, pas la peine de gaspiller de l'argent pour en plus tomber malade. Docteur Massiré Souma, vous recevez aussi des patients qui souffrent d'allergies cutanées.
Oui, exactement. Nous recevons des patients pour dermatoses immunoallergiques et inflammatoires, notamment les eczémas de contact, mais aussi la dermatite atopique. Et si nous prenons par exemple la dermatite atopique, c'est une maladie qui est en train de prendre de l'ampleur compte tenu de l'industrialisation et de la modernisation des villes africaines. Par exemple, je m'en vais vous citer les travaux d'un de nos maîtres, le professeur Adama Traoré de Burkina Faso, qui a réalisé 2 études dans l'espace de près de 15 ans. Alors, la prévalence est passée de 2% à près de 10%. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme. Alors, cette dermatite atopique, comme le disait le docteur Dominique Egas, altère complètement la qualité de vie des patients. Et quand ça survient chez l'enfant, non seulement la qualité de vie de l'enfant est perturbée, on peut avoir des retards scolaires, mais aussi, comme c'est une dermatose qui gratte suffisamment, et souvent toute la famille est embêtée la nuit, ce qui fait que le matin, vous voyez les parents qui aussi ne peuvent pas travailler convenablement. Et donc, c'est aussi un véritable problème dans nos structures.
Alors justement, problème et autre problème, ce sont les effectifs pour prendre en charge ces maladies. Docteur Mohamed Massiré Souma, est-ce qu'il y a beaucoup de dermatologues en Guinée ?
Alors, la Guinée, à l'image des autres pays africains, nous n'avons pas suffisamment de dermatologues. Nous avons actuellement 11 spécialistes en dermatologie, bien sûr d'autres sont en formation, pour une population de 12 millions d'habitants. Et quand nous faisons le ratio, ça veut dire que nous avons un dermatologue pour 1 million d'habitants chez nous. Et aussi, les structures ne sont pas aussi développées que ça. Par exemple, nous avons un seul service de dermatologie, qui est localisé à Conakry. Parfois, on est obligé de faire des consultations foraines, alors nous déplacer vers les villes de l'intérieur, ou parfois, c'est des médecins généralistes que nous formons dans le service qui sont déployés à l'intérieur et nous essayons de faire des consultations à travers la télédermatologie et par rapport à la prise en charge de certaines pathologies qui peuvent être soignées à distance. Mais d'autres, ils sont obligés de venir à Conakry pour pouvoir se soigner correctement.
Merci beaucoup, Dr Massiré Souma, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes dermatologue vénérologue au CHU Donka de Conakry.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Docteur Dominique Egas, on va conclure cet échange. On a entendu cette question de la pigmentation, dépigmentation, question complexe, avec la dépigmentation subie, on a entendu tout à l'heure le vitiligo, et puis cette dépigmentation provoquée, avec des conséquences néfastes pour la santé de la peau, et bien au-delà.
Oui, moi je pense que la peau, c'est un échange avec l'extérieur. C'est à la fois une protection de notre propre organisme, mais c'est un milieu d'échange aussi avec notre environnement. Donc il faut la protéger en fait, il faut être raisonnable, il faut pas faire des traitements dépigmentants agressifs. Si on veut pas être moins pigmenté, il faut mettre des crèmes écran total et se protéger du soleil, mais il faut pas se dire tiens, je vais mettre une crème, ça va me dépigmenter. Par exemple Michael Jackson, il était devenu très clair de peau, mais il mettait beaucoup de crème cortisonnée sur sa peau, ce qui est à long terme très mauvais parce que ça donne des atrophies cutanées, ça fragilise beaucoup la peau. Donc la peau, il faut la protéger du soleil, des agressions extérieures, il faut pas prendre trop de risques avec sa peau, il faut l'hydrater, il faut, je le disais depuis le début, bien la nettoyer matin et soir à l'eau et au savon, mais des savons doux, pas agressifs, et puis après éventuellement réhydrater si on sent que ça gratte un peu et que la peau est un peu sèche.
Merci beaucoup. Merci, docteur Dominique Egas, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes dermatologue, ancien président de la Société française de dermatologie chirurgicale et enseignant à l'Université Paris-Descartes.
Priorité Santé sur RFI.
Nous allons à présent nous arrêter sur cet appel à candidature associé à un concours auquel les porteurs de projets dans le secteur de l'e-santé peuvent participer jusqu'au 15 février prochain. Objectif, repérer, soutenir des initiatives pour les pays du Sud, améliorer l'accès aux soins, aux médicaments de qualité. Pour en parler avec nous en ligne, Léa Mattel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet à la Fondation Pierre Fabre. Alors, des candidatures à déposer auprès de l'observatoire de cette fondation. Justement, tout à l'heure, le dermatologue que nous avions en ligne de Conakry, le docteur Mohamed Massiré Souma, nous parlait de l'e-dermatologie. C'est quelque chose porteur d'espoir pour l'Afrique subsaharienne. C'est tout à fait le type de projet qui entre justement dans votre observatoire.
Oui, tout à fait. La télédermatologie notamment. On suit tout à fait ce type de programme, notamment la télé-expertise. Et on a d'ailleurs dans l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud un des projets qui s'appelle le Télédermalie et qui est un projet de télédermatologie au Mali.
Alors quel est le degré d'aboutissement d'un projet pour justement que ces candidats puissent le présenter ?
Alors, ces initiatives doivent être déjà implémentées, que ce soit en phase pilote ou en exploitation à plus grande échelle, mais ne sont pas concernés les projets au stade d'idée. On essaie d'avoir des initiatives avec le premier résultat.
Ça veut dire qu'en gros, un dossier papier, ça ne suffit pas.
Exactement.
Alors Léa Mattel, qu'est-ce qu'apporte à ce type de projet le fait d'être référencé au sein de cet observatoire de la e-santé dans les pays du Sud ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est le référencement qui, effectivement, donne de la visibilité au projet puisqu'il bénéficie d'une page dédiée. Certains projets font l'objet aussi de reportages sur le terrain. Donc c'est vraiment un gain de visibilité vis-à-vis notamment de partenaires potentiels. Et puis la seconde chose, ce sont les prix de l'Observatoire qui sont décernés lors de la conférence annuelle le 1er juillet prochain. Et là, les lauréats bénéficient d'un accompagnement financier et technique d'un an par la Fondation Pierre Fabre.
Ça veut dire que s'ils ont déposé le dossier, ça a commencé, là on va vraiment pouvoir poursuivre et se développer.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de les amener à une mise à l'échelle sur leur territoire.
Alors Léa Mattel, 15 février prochain, clôture des candidatures, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors ensuite, on étudie les dossiers, bien sûr. Débutent ensuite les premiers reportages sur le terrain. Et puis, on réunit le comité d'experts de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud pour sélectionner les lauréats.
Alors, pour nous donner une idée de ce qui s'est passé par le passé, citer des projets qui ont déjà été retenus et récompensés. Qu'est-ce que vous avez comme initiative, par exemple ?
Alors par exemple, si on part au Sénégal, on a le projet Joko Santé, qui est un projet de pharmacie communautaire où finalement cela permet de financer des médicaments pour les populations défavorisées au travers d'une économie circulaire avec des points qui sont donnés aux patients.
Alors il y a l'Observatoire, on l'a compris, ce prix. Est-ce que votre fondation travaille sur d'autres leviers, toujours dans le cadre du développement de la santé numérique ?
Oui, alors on a récemment décidé de favoriser la formation aussi, puisque c'est un pilier pour le développement de la e-santé. Et donc, on travaille à la création d'un diplôme interuniversitaire en e-santé qui est porté par l'Université de Bamako en partenariat avec l'Université de Dakar et celle d'Abidjan et bien sûr la Fondation Pierre Fabre.
Alors, on va mettre le lien Internet sur notre site. Peut-être que vous pouvez donner quelques coordonnées aux auditeurs de Priorité Santé, notamment à des chercheurs, des médecins qui seraient à l'écoute et qui seraient intéressés.
Oui, tout à fait. Alors, l'ouverture et les modalités de candidature à cette formation seront disponibles sur le site de la Fondation Pierre Fabre, donc www.fondationpierrefabre.org, et seront également disponibles sur le site de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako et sur les universités Cheikh Anta Diop de Dakar et les Cocody d'Abidjan.
Merci beaucoup Léa Mattel. Je rappelle que vous êtes chef de projet à la Fondation Pierre Fabre. Docteur Dominique Egas, vous êtes toujours avec nous. Il nous reste une minute environ. Je voulais revenir sur la conclusion tout à l'heure de l'entretien avec votre confrère en Guinée. 11 dermatologues pour tout un pays, pour toute la Guinée. Si on regarde les autres pays, c'est à peu près la même chose. Ce manque de dermatologues pour des pathologies qui sont finalement tellement communes, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation ?
Non, c'est vrai que c'est un vrai problème de santé publique, ça. Alors je pense qu'il faut à la fois peut-être faire une formation un petit peu plus importante pour les médecins généralistes qui sont en contact avec les populations. Donc il faudrait que les médecins généralistes aient une formation un peu dermato. Il faut aussi le faire auprès des infirmiers, auprès
qui sont
des coiffeurs.
Les plus fréquemment au contact
Nous, en France, on l'avait fait auprès des coiffeurs pour la pathologie du cuir chevelu, en disant quand vous voyez des clients qui viennent vous voir pour se faire couper les cheveux, si vous voyez des lésions qui vous semblent un peu
psoriasis, par exemple.
Psoriasis ou un carcinome basocellulaire du cuir chevelu,
bah c'est autre chose.
Dites-leur d'aller consulter, et ça a été très bien. Parce que c'est assez facile à faire auprès des infirmiers, des aides-soignants. Il faut impliquer tout le monde, en fait. Il faut pas que ça soit simplement une histoire de dermatologue. Il faut élargir le plus possible les connaissances aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux coiffeurs, aux kinés. On avait fait en France aussi avec les kinés, ça avait très bien marché. Et ça peut être assez facilement fait dans les pays africains, quoi.
Merci beaucoup, docteur Dominique Egas. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, l'a fabriquée, la réalise. Lundi, nous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée au chevauchement entre l'épilepsie et la psychiatrie. On se retrouve donc lundi.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.